France Culture.
Les Midi de Culture continuent. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Tout à l'heure à 13h, je recevrai la metteuse en scène Julie Duclos dans son nouveau spectacle. Elle adapte la célèbre pièce de Brecht, Grand-peur et misère du Troisième Reich. Mais tout de suite, on retrouve Marie Sorbier pour le Point Culture.
Eh bien, bonjour à tous. Mais que se passe-t-il à la Gaîté Lyrique, centre culturel de la ville de Paris situé dans le 3e arrondissement? Il est occupé depuis plus d'un mois par des centaines de jeunes sans domicile, pour la plupart mineurs. À ce micro, nous avions interrogé il y a quelques jours un des représentants du collectif Les Jeunes du Parc de Belleville. Mais depuis, la situation s'enlise. De plus en plus de sans-abri s'installent à la Gaîté Lyrique, qui n'a ni les moyens ni les aménagements adéquats pour leur assurer des conditions décentes. Et l'État, comme la mairie de Paris, ne semble pas trouver de solution. L'occupation de la Gaîté Lyrique, c'est le dossier du Point Culture du jour. Juliette Donadieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la Gaîté Lyrique à Paris. Gaîté Lyrique qui, depuis un mois, accueille 300 jeunes sans domicile. Alors, on le rappelle, vous êtes un établissement culturel. Vous êtes depuis fermé au public suite à cette occupation. Très concrètement, comment organisez-vous la vie dans ce lieu, dans votre lieu au quotidien ?
Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on accueille ces 300 jeunes. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on subit avant tout cette occupation depuis maintenant plus d'un mois du collectif des jeunes du parc de Belleville. Mais si on subit cette occupation, en fait, on considère légitime leur revendication, qui est celle de trouver un hébergement, en fait, pour ces 300 personnes.
C'est-à-dire que très concrètement, ils sont venus à la Gaîté Lyrique il y a un mois et que vous vous êtes retrouvés devant le fait accompli.
Exactement. Très concrètement, ils sont venus et ils n'ont pas voulu partir.
Et vous vous refusez à les mettre dehors?
Exactement. On sollicite depuis maintenant plus d'un mois les autorités compétentes, à savoir l'État et la ville, pour trouver une solution, pour qu'une solution de mise à l'abri soit proposée, parce qu'il nous semble inacceptable, impensable, de mettre ces personnes à la rue en plein hiver.
Mais alors, on annonce le chiffre de 300 jeunes, ça semble énorme.
Oui, on continue, nous, à alerter, en fait, sur une situation qui se dégrade, puisqu'effectivement, au tout début de l'occupation, on était plutôt autour de 200 personnes. Et pendant les fêtes, enfin, pendant les vacances, là, ça a augmenté, en fait, et ça continue à augmenter, en fait, de jour en jour. Et là, on dépasse les 300 personnes.
Quand on dit des jeunes, ça veut dire que la plupart sont mineurs?
Et c'est tout le sujet, et c'est toute la complexité, en fait, à savoir s'ils sont mineurs, évalués non mineurs par la ville. Et ça, c'est des sujets auquel je renvoie plutôt à la fois soit le collectif ou à l'État ou à la ville, qui pourra vous expliquer, en fait, la complexité, en fait, de cette situation. Nous, notre point de vue, il est très clair. Aucune de ces personnes ne doivent dormir à la rue, et il faut qu'une mise à l'abri leur soit proposée.
Mais alors, qui doit les prendre en charge? Vous parliez de la ville, de l'État. Sous quelle responsabilité ça tombe, ce genre de situation?
Ce qui est sûr, c'est qu'on est, nous, en lien, en fait, quotidien avec la ville de Paris, qui est notre tutelle, hein, puisque la Gaîté Lyrique est un lieu culturel de la ville de Paris. Donc, on est en lien quotidien avec eux pour partager à la fois les risques, les conséquences de cette occupation. Et la ville, en fait, cherche une solution avec le concours de l'État. Et à date, en fait, aucune solution nous est proposée, en fait, pour cette mise à l'abri.
Parce qu'il faut le rappeler, vous êtes un lieu culturel, c'est-à-dire que vous n'avez pas les équipements pour vous occuper de 300 personnes qui dorment sur place, mangent sur place, se lavent sur place. Donc le lieu, il va être forcément impacté par cette occupation-là.
En fait, le projet de la Gaîté Lyrique, depuis qu'on développe, de la Fabrique de l'Époque, depuis maintenant plus de 2 ans, est un projet d'un lieu ouvert qui accueille tous les publics, dont des publics en très grande précarité. On avait l'habitude de pouvoir, en journée, pouvoir avoir le plaisir de les accueillir pour, dans le cadre de nos programmations gratuites, dans le cadre d'un lieu ouvert où ils pouvaient venir brancher leur téléphone, se retrouver. Mais on est tout sauf un centre d'hébergement. En fait, les espaces ne sont absolument pas adaptés pour 300 personnes qui sont dans une telle promixité, qui est, en fait, en termes de situation sanitaire, tout simple. En fait, ce n'est pas possible, c'est inacceptable, en fait, comme situation.
Alors, je l'ai dit, du coup, la Gaîté Lyrique est fermée au public. Quelles conséquences ça va avoir pour vous, pour le lieu, d'être fermé sur une si longue période?
Donc, effectivement, le bâtiment, il est fermé jusqu'à nouvel ordre. Et les conséquences, en fait, elles sont nombreuses, en fait, et très importantes. Elles sont avant tout humaines, puisque je rappelle, en fait, que 300 personnes dans un espace inadapté, ce n'est pas acceptable. Elles sont humaines aussi pour des équipes, les équipes de la Gaîté, les résidents de la Gaîté Lyrique qui subissent cette occupation. Et elles sont aussi économiques. Effectivement, en fait, avec la fermeture du lieu et l'annulation, en fait, de tous les événements, on fait face à de lourdes pertes d'exploitation, mais à la fois la Gaîté, mais aussi tous nos partenaires de programmation, que ce soit des artistes, les gens avec qui on fait les concerts, avec qui on produit les festivals, qui malheureusement, en fait, ne peuvent pas avoir lieu.
Est-ce que vous estimez que c'est votre rôle en tant que lieu culturel, vous en êtes la directrice, de bah justement d'accueillir, ou je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas de ne pas mettre à la rue tous ces jeunes sans-abri qui viennent se réfugier chez vous? Est-ce que la culture sert aussi à ça?
Notre rôle, en fait, en tout cas en tant que lieu culturel, c'est de pouvoir accueillir tous les publics dans le cadre de nos programmations. En revanche, ça ne peut pas être celle de héberger en fait ces personnes et c'est avec un tel nombre pendant une longue période. Ce n'est pas possible. En revanche, la culture a effectivement un rôle à jouer pour pouvoir éclairer, questionner cet enjeu qui est celui de du logement ou du mal logement, de ces situations de ces personnes en situation de migration. Comment on peut en parler, comment on peut partager ces sujets. Mais en aucun cas, on ne peut être un centre d'hébergement et un lieu culturel ne peut pas devenir un centre d'hébergement.
Très concrètement, après un mois d'occupation, qu'est-ce que vous demandez et à qui vous le demandez?
En fait, à qui on le demande, toujours même aux autorités compétentes, en premier lieu à l'État, de pouvoir proposer une solution de mise à l'abri, et à la ville de Paris, puisque en fait c'est notre tutelle, notre relation directe qui va être celle qui cherche aujourd'hui des solutions avec le concours de l'État.
Merci beaucoup Juliette Donadieu.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, la Biennale de la danse de Venise récompensera en juillet prochain Twila Tarp et Carolina Bianchi.
Oui, la chorégraphe américaine Twila Tarp, grande figure de la danse contemporaine, recevra le Lion d'Or pour sa longue carrière débutée au début des années 60. Et l'actrice et metteuse en scène brésilienne Carolina Bianchi se verra remettre quant à elle le Lion d'Argent. La performeuse est l'une des figures importantes des scènes contemporaines. La France l'a découverte en 2023 avec son spectacle La mariée et Bonne nuit Cendrillon, qui avait été la révélation du Festival d'Avignon.
L'Institut GFK vient de publier la liste des 50 livres les plus vendus en France sur l'année 2024.
Et c'est le roman La femme de ménage de l'écrivaine américaine Freda McFadden dans sa version poche qui arrive en tête des ventes puisqu'il s'est déjà écoulé à 630 000 exemplaires. Ce thriller psychologique, premier tome d'une quadrilogie, raconte l'histoire de Millie, ancienne détenue, embauchée dans une riche famille de Long Island après 10 années passées en prison. On retrouve ensuite la sage-femme d'Auschwitz de l'écrivaine britannique Anna Stuart, puis en troisième position, Un animal sauvage de l'auteur suisse Joël Dicker. Sur les 50 titres de ce classement, 41 sont d'auteurs francophones.
Désormais, il n'y a plus d'office de tourisme à Paris.
Oui, le dernier office de tourisme parisien qui se trouvait au pied de la Tour Eiffel vient de fermer ses portes. Son directeur justifie cette décision par le manque de fréquentation du lieu lié à la modification des usages des touristes. Les visiteurs privilégient majoritairement Internet pour s'informer comme pour réserver. Une plateforme téléphonique et digitale a été créée comme substitut.
Et pour finir, Marion, fête aujourd'hui les 10 ans de la Philharmonie de Paris.
Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la Philharmonie de Paris avait fait couler beaucoup d'encre lors de son inauguration le 14 janvier 2015. En cause, le coût du projet qui avait doublé, passant de 200 à près de 400 millions d'euros. Des critiques sur son emplacement, le rejet du projet final par son architecte Jean Nouvel, ou encore des querelles entre la mairie de Paris et l'État concernant son financement. Alors malgré ses débuts difficiles, l'institution couplée à la Cité de la Musique peut aujourd'hui dresser un bilan très positif de ses 10 premières années. La Philharmonie accueille chaque année 1,5 million de personnes avec un taux de remplissage de 92% sur ses 450 concerts annuels. Elle propose de nombreux programmes pour favoriser l'éducation à la musique et diversifier ses publics, tandis que l'acoustique de sa grande salle Pierre Boulez est considérée comme l'une des meilleures du monde.
Merci Marie, et on se retrouve demain pour d'autres actualités culturelles. En attendant, il est 13h, bientôt 13h d'ailleurs, et vous êtes sur France Culture.